Merci, les prochaines infos à 20h. Bonsoir les amis des livres et des apéros. Il paraît que la peur paralyse. La peur générée par la guerre ou par les attentats ferait disjoncter nos cerveaux et transformerait les citoyens éclairés en insectes tétanisés pris dans la lumière des phares. La peur empêche de penser, de parler, d'écrire, bref, la peur fige la vie. Ah bon ? Oh non mais, en tout cas la bêtise elle a pas peur de cette introduction. Oh mais qu'est-ce qu'elle est peureuse cette Dupont-Mono. Mais enfin, regardez du côté des livres, c'est exactement l'inverse. La grosse frayeur a donné des textes magnifiques. Henri Barbusse par exemple, il a connu la terreur des tranchées et de cette terreur il a tiré un roman, Le Feu, prix Goncourt en 1916. 85 ans plus tard, à l'autre bout du monde, des écrivains américains feront la même chose après le 11 septembre. Pour contrer la peur, justement en faire un objet d'étude, Don DeLillo signera une balade hallucinée avec l'homme qui tombe et le dessinateur Art Spiegelman, tremblant que sa fille puisse être sous les décombres, se remettra de sa peur en traçant l'album à l'ombre des tours mortes. Loin de paralyser, la peur est peut-être le meilleur moteur de la pensée et si vous voulez une dernière preuve, elle est là, sous forme de livre. Il s'appelle Terreur, il est signé Yann Moix chez Grasset. C'est un livre qui ne raconte pas véritablement d'histoire. Il est découpé en petits paragraphes et chacun correspond à une réflexion sur ce qu'est l'acte terroriste, sur l'avant et l'après un attentat, sur les médias, sur nous tous. Pas de colère, pas de harangue, ni diatribe. Ces petits paragraphes sont calmes et décortiquent nos peurs depuis les attentats de janvier 2015. Ce petit essai est obsessionnel, très intelligent et surtout il interroge la radicalité, la jeunesse, le principe même de l'acte terroriste, les terroristes. Nous sommes en guerre, avait dit François Hollande, or les écrivains ont toujours voulu dire la guerre. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Yann Moix et tant pis si ça paraît complètement déplacé, après tout il y avait bien un orchestre sur le pont du Titanic. Il nous livrera ses secrets d'écriture comme on murmure un antidote, ce sera le procès-verbal, nous révélera ses vices culturels indignes, sans crainte, ce sera les inavouables, avant qu'un libraire, sans peur et sans reproche, ne vienne enfin apaiser nos terreurs.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Mono.
Bonsoir Yann Moix.
Bonsoir.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette succession de petits paragraphes et pas un roman ?
D'abord, les romans, il y en a marre. J'en ai écrit beaucoup. Et parfois, la pensée s'exprime le mieux sous forme d'aphorisme et non pas de système. L'aphorisme, en tout cas les petits paragraphes, permettent de faire scintiller des petites étincelles de vérité qui ne prétendent pas proposer une grille de lecture ou un tout explicatif, mais qui permettent d'écorcher un peu le réel pour voir ce qui saigne en dessous. Et j'ai trouvé que ça se prêtait particulièrement bien aux attentats, parce que les attentats adviennent par à-coup et par surprise. Et les aphorismes adviennent par à-coup et par surprise.
Vous avez écrit la préface de ce livre Terreur dans la bibliothèque municipale. Et autour de vous, vous décrivez ce qu'il y a autour de vous, il y a du bruit. Et vous dites, il y a quelques années, j'aurais maudit ce brouhaha, il m'enchante aujourd'hui. Et donc vous avez écrit sur le terrorisme et sa destruction, précisément parce que vous étiez heureux de vivre.
On se rend compte par la négative que sans le savoir, nous sommes sans doute heureux de vivre. Et les attentats nous le rappellent. Le risque de mourir dans un attentat est faible. Mais ce qui fait peur, c'est l'irruption d'une nouvelle manière de mourir à laquelle nous ne sommes pas habitués. Mourir en avion, on est habitué. Mourir d'un cancer, on est habitué. Mourir à pied, on est habitué. Mais cette façon-là de mourir a fait irruption dans la société française. Et c'est cette nouveauté-là, ce côté inédit qui nous sidère en fait.
Il y a un autre côté inédit, c'est le côté adolescent des terroristes. Qu'est-ce que vous voulez dire par adolescent ?
J'entends par là que c'est rare que la guerre soit faite par des adolescents, ou décrétée, déclarée par des adolescents. Des adolescents qui, depuis leur chambre, de manière d'abord informelle, puis de manière virtuelle, puis de manière réelle, s'acheminent vers des tueries. Je crois aussi qu'il y a une sorte d'immaturité dans ce processus-là, ou de crétinisme. Il y a deux formes d'immaturité ou deux formes de crétinisme. Il y a ceux qui sont plutôt intelligents comme Mera et Kouachi, mais qui sont manipulés de manière pyramidale par Daesh, admettons. Et Daesh fait feu de tout bois et choisit des crétins en s'intéressant à l'intelligence de ces crétins et en leur donnant des pilules salafistes un peu frelatées. Mais ce sont des gens structurés et intelligents. Et puis il y a une deuxième forme de crétinisme, c'est le crétinisme de Koulibaly, qui là ne s'embarrasse même pas de corpus idéologique, et à toute vitesse, de manière accélérée, ingurgite 2-3 sourates, 2-3 juifs à détester, et on y va, on commet un carnage. Donc ce sont quand même tous des crétins, au sens strict du terme, qu'ils soient structurés intellectuellement, théologiquement ou pas du tout.
Vous pointez du doigt quand même l'inculture, l'espèce de vide qui habite les terroristes. Mais est-ce que pensez que les Kouachi, les Koulibaly, les Merah auraient été différents s'ils avaient lu? Ils auraient été moins manipulables s'ils avaient lu? Est-ce que ça, c'est pas un peu angélique?
Non, alors d'abord, ils ont beaucoup lu. Ils sont allés sur des sites internet. Ils ont lu des sites ultra salafistes. En tout cas, le salafisme, toutes les formes de salafisme ne sont pas dangereuses. Hein. Mais il y a des sites internet qui préconise et qui prêche la haine de notre civilisation et de notre société. Donc là, ils l'ont lu, par exemple. Et il est vrai qu'il y a quand même une sorte d'antisémitisme inculte qui, parallèlement, est en train de naître. Celui de l'assassin ou du terroriste qui ne sait pas où se situe Israël, qui ne sait pas ce que c'est qu'un juif, qui ne sait même pas ce qu'est un antisémite, finalement. Et effectivement, je pense quand même que les gens qui lisent des romans ou des philosophes, etc., ont sans doute une propension moindre à commettre des carnages. C'est peut-être angélique, mais j'ai la faiblesse de le penser.
Vous parliez de l'absence d'idéologie. Écoutez l'argument d'un ancien membre du groupe armé Action Directe.
Il arrive un moment où, quand tu t'aperçois de ta propre misère, bon, que ce n'est pas la vie qu'on te propose, mais la survie, bon, tu ne fais plus confiance aux partis de type traditionnel, réformiste ou autre, et tu penses qu'il faut envisager d'autres types d'actions. À ce moment-là, tu fais un choix d'action, bon, un choix politique, et tu envisages des actions illégales, bon, qui sont autres que des diffusions de tracts, bon, des prises de parole dans des meetings ou d'autres actions de ce type.
Ça veut dire la lutte armée?
Ça veut dire, entre autres, la lutte armée. Mais la lutte armée en soi n'est pas une finalité.
Est-ce qu'on peut dire que, contrairement à Action Directe, par exemple, les terroristes de Daesh ne sont pas animés d'une idéologie? Est-ce que c'est ça une des principales différences avec les groupes terroristes qu'on connaissait jusqu'à présent?
Alors, il y a une différence entre Action Directe et les terroristes d'aujourd'hui. C'est que Action Directe avait avalé un corpus idéologique d'extrême gauche, hein, marxiste, léniniste, enfin bon, et avait choisi de cibler des gens qui représentaient le système capitaliste. Georges Besse, par exemple, qui avait été assassiné en 1986. Donc il y avait quelque chose de strictement idéologique et de strictement politique, et c'est au nom de cette idéologie strictement politique qu'on agissait. Là, dans l'esprit des nouveaux djihadistes, il est clair qu'il y a une idéologie sous-jacente. L'islamisme radical, c'est une idéologie. Le salafisme poussé à son ultime incandescence, c'est une idéologie. Mais j'ai l'impression que le corpus de cette idéologie-là est moins structuré, moins intellectualisé, moins culturalisé que ne l'était celui des années 1970. Il y avait, dans les années 70, la prétention de détruire ce qui était existant. Là, j'ai l'impression que chez Daesh, c'est la destruction en elle-même le héros, le personnage principal.
Donc c'est pas du nihilisme.
Non, alors le nihilisme qui me gêne, c'est que c'est un isme. C'est anéantir ce qui est existant, en fait. Mettre à bas la société, les codes, les règles. Là, on n'est pas dans l'apologie du rien. On est dans le rien tout court. Quand il y a un isme, ça veut dire qu'il y a une idéologie, et il y a, en fait, un passage par l'intellect, par la réflexion.
C'est pour ça que vous n'avez pas appelé votre livre « Terrorisme » ?
Oui, alors parce que la terreur me semble une ambiance plus qu'une idéologie. Dans un attentat, on comprend que l'acte et la propagande sont mélangés, sont la même chose. L'attentat est lui-même sa propre propagande. Et donc c'est comme un teasing, un teaser. Un attentat est à la fois un carnage, un drame, une catastrophe, et en même temps, l'annonce de ce qui va advenir plus tard. Et ce qui advient plus tard, ce sont deux choses. C'est la sidération de tous, parce que l'attentat perdure, et la terreur, ce que j'appelle terreur, c'est l'ambiance créée par l'attentat. C'est cette ambiance-là, de silence, de mort et de panique, et l'attente implicite, inconsciente, dans attentat finalement, même si pas la même racine, il y a attente, du petit frère, du jumeau. Un attentat appelle un autre attentat et on oublie toujours de penser la chose suivante, que les terroristes entre eux se tirent la bourre. Les terroristes font eux-mêmes un concours d'attentats, une compétition d'attentats, et c'est en cela aussi qu'il y a une immaturité. Il y a inflation d'imagination, inflation d'horreur, et d'ailleurs, quand Petit Jean décide de s'attaquer au Pyramel, il prévient tous ses amis, supposés, hein, ses amis virtuels sur Facebook ou autre, de ne pas rater la scène qui va arriver. C'est-à-dire qu'il y a un côté frime dans le terrorisme aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'Action Directe était dans le même état d'esprit. Il voulait frapper la société capitaliste pour la remplacer par une autre société. Et je crois que là, les terroristes actuels, et on en a les preuves dans le livre de David Thompson intitulé « Les revenants », veulent jouir à notre place de la société de consommation, tout comme nous. Et la première chose qu'ils font quand ils arrivent à Raqqa ou à Mossoul, c'est rencontrer des filles sur les réseaux sociaux de Daesh, choper de la meuf en fait, c'est ça qui les intéresse, avoir des belles voitures, écouter du rap et avoir des beaux appartements. Ça nous devrait nous faire réfléchir. L'idéologie est en fait un prétexte pour commettre les carnages. Alors que chez Action Directe, le carnage était un prétexte pour instaurer l'idéologie.
Yann Moix, vous n'êtes pas seulement décortiqueur d'idéologie ou de peur, vous l'êtes aussi de Michael Jackson. Non, mais cette phrase est bizarre, mais il me fallait une transition, je vois votre
étrange.
Tête. Non, mais c'est un peu léger, je l'admets, mais il se trouve
encore
quand...
Thriller...
Thriller, mais surtout 2009 avec votre livre 50 ans dans la peau de Michael Jackson.
Oui.
Ah ben voilà, voilà pourquoi on a choisi Michael Jackson pour vous.
D'accord.
Won't hold me tonight. If this town is just an apple, then let me take a bite. If they say why, tell them that it's human nature. Why does he do it that way? If they say why, tell them that it's human. I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, tell them that it's human nature. Why do they do it that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why does he do it that way? I'm like living this way.
Yann Moix est avec nous jusqu'à 20h pour son essai « Terreur » qui radiographie nos peurs, activées avec les attentats de ces dernières années. Aux Invalides, François Hollande avait rendu hommage aux victimes des attentats. C'était le 27 novembre 2015.
La liberté ne demande pas à être vengée, mais à être servie. Je salue cette génération nouvelle. Elle a été frappée. Elle n'est pas effrayée. Elle est lucide et entreprenante, à l'image des innocents dont nous portons le deuil.
On a beaucoup, beaucoup salué la dignité de François Hollande au moment des attentats. Et vous, Yann Moix, vous dites, je vous cite, « La seule grandeur du président fut d'être en poste à ce moment-là. Quelle fierté spéciale tirée de cette horrible aubaine.
Mais enfin, Clara, de quelle dignité vous me parlez? Vous imaginez un président qui ne serait pas digne à ce moment-là? Il n'a pas fait exprès. Je veux dire, quiconque ferait un discours ce jour-là serait digne. Je veux dire, qu'est-ce que François Hollande peut espérer en termes de grandeur pendant ces attentats? Outre le fait que le hasard a fait qu'ils ont été commis du temps qu'il était président, je ne vois pas en quoi il a été spécialement génial, incroyable, inouï, immense, héroïque, digne. Il a été normal. Là, pour le coup, c'est un président normal. Il a fait un discours écrit par d'autres, totalement désincarné. Quand on entend sa voix, c'est absurde, en fait. On voit bien que c'est complètement désincarné. Il n'est pas dedans. Il n'habite pas ce discours. Les mots sonnent faux. Donc, franchement... Et puis, il y a autre chose. C'est que lorsque l'État assiste aux obsèques des morts, alors, il est obligé de le faire, bien sûr. Il ne l'aurait pas fait, on serait dans un État irresponsable. Mmh. Mais il faut quand même remarquer une chose. Ce sont les obsèques des victimes des attentats. Et en même temps, c'est la manifestation de l'impuissance de l'État qui n'a pas su empêcher ces morts.
Mais pourquoi ?
L'État se recueille devant sa propre impuissance. Vous attendez, en tant que Français de l'État, qu'il vous permette d'aller pouvoir boire un verre dans les rues de Paris sans recevoir une balle de Kalachnikov. C'est quand même le minimum de ce que vous attendez d'un État comme l'État français. Que l'État vienne ensuite commémorer, c'est tout à fait normal. Qu'il le fasse d'une manière aussi désincarnée, parce que le son de la voix de François Hollande ne trompe pas. Il n'y a pas vraiment d'émotion, je suis désolé. C'est pas incarné. On sent bien qu'il ne l'a pas écrit lui-même. Peut-être qu'il a remis 2-3 mots de sa poche, mais franchement, on sent bien qu'on est loin d'un discours comme le discours de Malraux, qui était sans doute décalé par rapport à l'époque, mais qui était totalement incarné, totalement vécu. Et je dis que François Hollande était en dessous de tout pendant cette période. Il a juste été là. C'est juste en même temps que nous qu'il était là, mais pas avec. Et d'ailleurs, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Après les attentats, il a avoué, dans le livre des deux journalistes du Monde, que la première chose à laquelle il a pensé, c'était ses enfants. Mais quand on est président de la République, la première chose à laquelle on pense, c'est tous les Français, qui sont tous nos enfants. Moi, président de la République, moi, président de la République, moi, président de la République, pendant ces 5 ans, tout le monde aura été président de la République, sauf François Hollande.
Vous regrettez autre chose, vous regrettez toutes les analyses qu'on entend après un attentat, ces cascades de mots. Vous écrivez « Tout ce qu'on dit sur le terrorisme est plus intelligent que le terrorisme ». Et en même temps, est-ce que ce n'est pas une tentative de mettre du sens là où justement il n'y en a pas ?
Oui, c'est toute la fierté d'un pays comme le nôtre, qui est un pays intellectuel, et un pays d'intellectuels, un pays de littérature, de philosophie, de savoir, de connaissances et d'essayistes, que d'essayer de penser ce qui n'est pas immédiatement pensable.
Mais pour autant, vous récusez l'appellation spécialiste du terrorisme.
Oui, je pense que tout le monde est un spécialiste du terrorisme. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent dans leur chair les attentats, ou qui ont peur d'en voir se commettre d'autres, sont des spécialistes du terrorisme. Qu'est-ce que c'est qu'un spécialiste ? C'est quelqu'un qui connaît très bien un sujet. Quelqu'un qui se balade dans Paris, dans le 11e arrondissement, qui a assisté aux attentats ou qui a regardé sa télévision ce soir-là, est un spécialiste. Parce qu'il a vécu le sujet dans sa chair. Un spécialiste de Balzac, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a tellement lu Balzac que Balzac fait partie de lui-même. Un spécialiste des attentats, c'est quelqu'un qui a tellement vécu les attentats de manière directe ou indirecte qu'il est concerné à l'infini, qu'il en est un spécialiste. Maintenant que Olivier Roy et Gilles Kepel se disputent pour savoir qui a raison, c'est très bien aussi. Car ni l'un ni l'autre n'ont raison, ils ont tous les deux raison. Et c'est le croisement de leurs pensées qui se réfutent l'une l'autre qui donne peut-être une ouverture sur la vérité. Je ne regrette pas qu'il y ait inflation de commentaires, en fait. Je dis qu'il y en a beaucoup, que c'est tant mieux, et que tant qu'on aura l'intelligence de penser ce qui n'est pas intelligent, on n'aura jamais un coup d'avance, mais on aura peut-être une intelligence d'avance. C'est toujours ça de prix.
Et le résultat, c'est que vous l'écrivez, vous dites « quelque chose a changé ». Quoi ? Tout. L'attentat s'infiltre sous les tapis, dans les oreilles. Le monde ambiant transporte une laideur nocive. Est-ce que ça signifie, Yann Wax, que les terroristes ont gagné ?
Oui, ils ont d'une certaine manière gagné, dans la mesure où le réel est cancérisé, tuméfié. Quand un attentat a lieu, c'est toute la réalité en fait qui est putréfiée et qui est contaminée. Vous voyez bien que les attentats agissent sur le moral, mais aussi sur la sexualité des gens, sur l'humeur des gens. Les choses ont l'air plus laides, n'ont pas la même texture, les oiseaux ne semblent pas chanter de la même manière. Il y a quelque chose qui modifie le réel, mais de manière microscopique, comme une irradiation. Comme après Hiroshima, une bombe a contaminé l'atmosphère et le réel en l'irradiant, là on a l'impression d'une irradiation psychologique, en fait. Tout est gangréné, tout est rongé, mais de manière mortifère, mais c'est par la psychologie. Chacun, en fait, voit de la mort où il y a de la vie. Chacun voyait du danger où il n'y en a pas. Et tout résonne de manière différente de la veille de l'attentat.
Et donc les terroristes, quelque part, continuent de tuer après l'attentat lui-même.
C'est ce que je disais tout à l'heure, la propagande et l'acte se confondent, et c'est un acte qui se répand, qui se propage. C'est très étrange parce que c'est comme une publicité permanente pour la mort, en fait. On vit dans une publicité morbide, tout le temps. Tout nous annonce que la mort a gagné sur la vie. Et en cela, on peut dire que les terroristes gagnent en ce moment. Parce qu'à chaque fois qu'on oublie un peu un attentat, il y a un rappel de vaccin.
Et pourtant, quand on écoute Antoine Léris, alors le mari d'une victime du Bataclan, qui a écrit un livre « Vous n'aurez pas ma haine », quand vous entendez ça, Yann Moix ?
On passe par des chemins différents, mais on a tous cette même direction qui est recommencer à vivre et que notre vie ne tourne pas qu'autour de ces événements-là.
Est-ce que ça, c'est pas la plus grande déclaration de guerre à Daesh ? Est-ce que c'est pas une victoire aussi à sa façon ? Ou vous trouvez ça finalement naïf, peut-être ?
Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour Antoine Léris. Je l'ai reçu dans une émission, chez Laurent Ruquier, nous l'avons reçu. C'était un moment fort, le livre est un moment de lecture absolument bouleversant et je le respecte à l'infini. Néanmoins, je pense que dans la psychologie des victimes, il y a quelque chose qui se met en branle, qui est soit on tient ce genre de discours, soit on suicide. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit c'est une mort lente par l'alcool, la dépression, les drogues, ou une mort violente par le suicide, soit c'est le discours, on va dire, volontariste de celui qui veut vivre. Mais très honnêtement, quand Antoine Léris, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de force, nous parle de la vie, il a quand même les yeux qui sont pleins de mort. On ne peut pas lui dire, mais ça se voit, c'est un homme détruit qui parle. C'est un homme détruit qui nous dit qu'il faut vivre, mais on voit bien qu'il est détruit de l'intérieur, et il va se réparer. Et il a raison de dire que la vie est plus importante que la mort. Il a raison de dire que la vie va l'emporter sur le terrorisme, mais il n'empêche que l'amour de sa vie est mort, et que rien au monde ne pourra faire en sorte que sa femme ressuscite. Et donc, d'une certaine manière, dans la vie d'Antoine Léris, la mort a emporté une horrible victoire.
Et pour ceux qui sont moins touchés directement par le drame comme l'a été Antoine Léris, si on décrète la victoire finalement de Daesh et de la radicalité sanguinaire, ça voudrait dire donc qu'on ne se bagarre plus ? Ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus d'espoir ?
Je ne dis pas que nous n'avons aucune issue. Je ne dis pas qu'il faut être pessimiste. Je dis qu'il y a eu suffisamment de morts pour l'instant pour considérer qu'ils ont gagné. Même si ça s'arrête tout de suite, ils ont gagné. Ils ont gagné des morts. Ils nous ont empêchés d'être heureux pendant 2 ans. Donc, d'une certaine manière, ils ont gagné une guerre. Cette guerre-là, des morts déjà morts, a été gagnée. Et je ne peux pas dire, que la vie va l'emporter sur ce viva la muerte permanent, dans la mesure où je trouve que ce qui est advenu est suffisamment grave pour reconnaître que de ce point de vue, ils ont gagné. Ça serait aberrant de dire non, ils n'ont pas gagné, on va continuer le combat. Les morts qui sont advenus sur le territoire sont la preuve définitive que Daesh a gagné cette guerre-là, quand bien même elle s'arrêterait dans 25 minutes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une guerre qui a été gagnée, une guerre par surprise à laquelle on n'était pas préparé, une guerre que nous n'avons pas faite, mais qu'ils ont fait. Et peut-être que nous serons les vainqueurs dans quelques années, ce que je souhaite et ce que je pense d'ailleurs. Parce que c'est cyclique le terrorisme, ça va s'arrêter puis ça reviendra. Mais cette guerre-là, je suis désolé, les cadavres et les cercueils montrent qu'ils ont gagné cette guerre.
L'objectif aveugle de destruction, il y a quand même des fois où ça se retourne un peu contre Daesh. Vous citez par exemple le moment de la destruction des vestiges de Palmyre, et vous dites qu'à mesure que Daesh détruisait ces monuments, en fait, il y avait une parole inédite qui se déployait, qui disait en fait ces vestiges. Comme si la destruction des choses faisait paradoxalement jaillir les phrases et le langage sur ces choses.
Exactement, Clara. Je suis content que vous êtes la seule à m'avoir signalé ce passage. Et ça me fait très plaisir parce que vous voyez qu'on peut dire ce que je dis, savoir ils ont gagné cette première manche, en tout cas, de la guerre, ils l'ont gagné. Et dire en même temps que l'optimisme peut continuer à être. Parce que, effectivement, au moment où Palmyre tombe, des monuments définitivement détruits, des vestiges de l'humanité enfouis à jamais, réduits à l'état de poussière, eh bien, l'optimisme préconise la recette suivante, qui est que cet art étant détruit, un autre art, comme la littérature, l'opéra, la musique, le cinéma, la chanson vont peut-être un jour dire la destruction de Palmyre. Et donc l'art va réparer la destruction de l'art. Je ne m'enchante pas, si vous voulez, mais admettons qu'un chef-d'œuvre de littérature vienne un jour écrire sur la disparition de Palmyre, le chef-d'œuvre que fut Palmyre sera, non pas remplacé, mais sera dit par un chef-d'œuvre de littérature qui n'aurait pas pu être si Palmyre n'avait pas existé. Voilà ce que j'essaye de dire pour essayer de colmater les brèches et me rassurer d'une certaine manière.
Et vous résumez en disant « Daesh fait jaillir autant de trésors de l'esprit humain qu'il en annihile ». Voilà. En parlant de trésors de l'esprit humain, Yann Moix, il est temps de nous livrer vos secrets d'écriture. C'est l'heure du procès-verbal. Votre nom.
Moix.
Votre prénom.
Yann.
Vous écrivez assis, couché ou debout?
En marchant.
Sur ordinateur ou sur papier? Alors, ça n'a pas de sens cette
question,
mais...
Ni l'un ni l'autre. J'apprends par cœur des phrases que je recopie le soir pour ne pas oublier.
Vous avez un rituel avant de vous mettre à marcher ou écrire?
Aucun rituel. Jamais.
En période d'écriture, de marche, est-ce que vous avez tendance à beaucoup manger? Vos repas, ils sont gargantuesques ou au contraire, ils sont plutôt frugaux?
Frugaux. D'ailleurs, ça me fait penser, oui, dans François Truffaut, vous connaissez l'argent de poche.
Oui.
Cette phrase extraordinaire, il y a un gamin qui est invité par la mère d'un autre gamin, il lui dit « Madame, je vous remercie pour ce frugal repas ». S'il croit que frugal, ça veut dire gargantuesque.
Voilà, non, ça n'est pas votre cas. Donnez-moi un mot pour définir la seconde avant, juste avant de vous mettre à marcher et écrire.
Le silence total, je ne me dis pas, il n'y a rien, je n'ai pas de mots. Je suis désolé de vous décevoir.
Pas du tout, au contraire, vous m'enchantez. Et donc vous cessez de marcher dès lors que vous avez mis le point final mental.
Il n'y a pas de point final parce que on ne commence pas un livre par le début, on ne termine pas un livre par la fin.
Un petit peu quand même.
Bah non, on l'écrit dans le désordre le plus total et ensuite on met de l'ordre à la fin.
Comment vous savez que c'est terminé alors?
On ne le sait pas, parce que mon éditeur me dit c'est pour le 24 que tu dois me le rendre. Et j'ai dit d'accord. Et donc le 24, ben je le rends. J'aurais pu continuer pendant 3 ans. J'aurais pu m'arrêter 3 mois plus tôt. Mais voilà, il y a une date. C'est comme les dissertations à l'école. Il y a une date de remise des copies.
Donc pour votre roman Naissance, qui faisait 1500 pages, votre éditeur a tardé à vous rappeler à l'ordre, visiblement.
Non, non, il m'avait dit, tu me rends le 3 janvier. Et j'ai rendu le 3 janvier.
Merci Yann Moix, vous êtes libéré.
Merci
de vos
beaucoup.
Obsessions, je ne sais pas. Mais en tout cas, du procès verbal, ça fait de vous un bâton. Hein, comme John McEnroe, c'est le titre de la chanson de Da Silva. Non, mais c'est mes transitions, ne me regardez pas comme ça Yann Moix.
De peur que tu me quittes, j'ai ouvert la porte en grand. Je me suis préparé à te dire adieu, adieu. 100 fois je suis sorti embrasser des inconnus pour te perdre avant l'heure et te dire adieu, adieu. J'ai dressé des barricades, des forteresses imprenables. Comme John McEnroe, je te prends de court lorsque l'amour s'écroule au fond du cours. Comme John McEnroe, je te prends de court lorsque l'amour s'écroule au fond du cours. Bien avant que la douleur de ton départ ne me gagne, effrayant, effrayé, j'ai démoli ton amour. Avant que tu me détestes, je rongerai ma laisse avec allégresse pour te dire adieu, adieu. J'ai dressé des barricades, des forteresses imprenables. Comme John McEnroe, je te prends de court lorsque l'amour s'écroule au fond du cours. Comme John McEnroe, je te prends de court lorsque l'amour s'écroule au fond du cours. Comme John McEnroe, je te prends de court lorsque l'amour s'écroule au fond du cours. Comme John McEnroe, comme John McEnroe.
Comme John McEnroe.
Vous écoutez La Muse Bouche jusqu'à 20h. Notre invité, c'est Yann Moix pour son livre Terreur, paru chez Grasset, consacré aux attentats de ces deux dernières années. Après les attentats de Charlie Hebdo, Yann Moix, un libraire me racontait qu'il n'avait jamais vu autant de monde dans sa boutique. Ça m'avait assez marqué, comme si la librairie était un peu un point de ralliement, ou comme si les livres offraient une espèce de contrepoids à la terreur, justement. Voilà pourquoi nous sommes quand même assez fiers d'avoir un libraire chaque samedi dans cette émission. Enfin, s'il appelle, parce que c'est pas sûr. Ah ! Le voilà qui appelle. Allô ?
Allô, bonsoir, c'est Guillaume, j'appelle pour l'apéro.
Mais bonsoir Guillaume, ne seriez-vous pas Guillaume Chevalier, beau nom de famille ? Et ne viendriez-vous pas, homme preux, de la librairie mot à mot à Fontenay-sous-Bois ?
C'est tout à fait ça.
Eh bien, posez votre hallebarde sur Chevalier, parce que le côté chevalier, je vais filer la métaphore. Et dites-nous quelle est la situation la plus farfelue que vous avez connue dans votre échoppe ?
Dernièrement, lors des fêtes de Noël, il y avait sur ma table le dernier roman de Jonathan Coe qui s'intitule Numéro 11. Et un homme, quand je lui conseillais ce livre qui m'avait bien plu, m'a expliqué qu'il aurait préféré quand même lire les 10 premiers avant de lire le 11e.
Ah, mais ça, c'est, je trouve ça très logique. Ça.
Mais moi, j'aime beaucoup les librairies. C'est un endroit qui m'apaise, il m'a toujours apaisé. Je me suis toujours senti bien dans les piscines et dans les librairies.
D'accord, sauf qu'on n'entre pas en maillot dans une librairie. Mais vous pourriez.
Oui, mais moi, je peux passer 4 heures dans une librairie.
Et dans une piscine aussi.
Non, 2 heures dans une piscine.
Si, parce que vous écrivez vos romans en nageant.
Oui, mais 2 heures de crawl, ça va.
Ah oui, c'est ça.
Et alors que 4 heures de lecture, c'est pas assez.
Messire libraire, donc c'est Guillaume Chevalier. Quel livre conseilleriez-vous à notre invité Yann Moix ?
Je conseillerais bien volontiers Station Eleven de Emily St. John Mandel, qui est paru aux éditions Rivage.
Alors Yann, est-ce que vous connaissez ?
Non, mais je vais aller regarder, je suis curieux.
C'est un roman d'anticipation dans un futur proche. L'humanité a quasiment disparu suite à une pandémie de grippe mondiale. Et l'action se situe à peu près 20 ans après cet effondrement de civilisation. Et on va suivre une petite troupe de théâtre itinérante qui passe de communauté de survivants en communauté de survivants pour leur jouer du Shakespeare et du Beethoven. Mmh. Et en fait, je pense que ça relie la thématique dont vous parlez aujourd'hui, parce que c'est vraiment le fait que l'histoire se passe 20 ans après l'effondrement de civilisation, fait que on est dans la reconstruction, dans l'amorce d'une reconstruction civilisationnelle, et qu'en fait, il y a plein de choses qui se déroulent. Il y a une dualité entre les anciens qui ont connu le monde d'avant, et qui en sont parfois et souvent même nostalgiques, et les plus jeunes qui se construisent, qui ne se souviennent pas, soit ils étaient trop jeunes et ils ne se souviennent pas de ce qui a pu se passer avant, soit ils sont carrément nés dans ce nouveau monde, et ils sont obligés de se construire une nouvelle mythologie, de nouveaux symboles pour structurer leur existence, garder l'espoir dans ce monde nouveau, et justement combattre la peur.
Grâce à la culture, donc.
Et grâce, exactement, le message du livre, c'est ça, c'est que la culture, c'est un des piliers auxquels on peut s'accrocher pour ne pas sombrer et conserver notre humanité. Mmh. Et quand vous disiez tout à l'heure que les gens n'étaient jamais venus autant dans des librairies après les attentats, ça raccroche aussi au message de ce livre, je pense. Et donc voilà, on est dans...
Ben voilà pourquoi les librairies sont vitales.
Traumatique, mais collective, quoi.
Guillaume, vous nous redonnez les références du roman ?
Oui, bien sûr. Il s'agit de Station Eleven, de Emily St. John Mandel, et c'est aux éditions Rivage.
Merci Guillaume Chevalier de la librairie mot à mot à Fontenay-sous-Bois. Merci au magazine Page, la revue des libraires, pour la livraison hebdomadaire à la Muse-Bouche. Damoiseau Guillaume, parce qu'il fallait bien que je le dise, venez donc boire un verre de cervoise avec nous, gente dame que je suis, et le moine copiste Yann Moix. On vous attend, Guillaume, à tout de suite.
Eh bien, tout de suite, alors.
Yann Moix, c'est l'heure des inavouables. Oui, parce qu'on a beau être roi des lettres et de la télé, on n'en est pas moins homme. Donc, faillible. N'importe quoi. Y a-t-il une chanson, un livre ou un film, Yann Moix, catalogué un peu ringard, mais que vous affectionnez ?
Oui, il y en a beaucoup.
Ah, une chanson, par exemple.
Bah, par exemple, en 1979, il y avait Tassim et Topalov qui chantait « Où est ma chemise grise ?»
Oh, « Où est ma chemise grise ?» Ça alors.
J'en ai mis plein, alors je sais plus.
Non, mais c'est là,
je sais pas ce que tu voulais que je dise.
Ah, mais rien du tout, c'est vous qui dites. Mais je vous rappelle quand même que j'ai du coup regardé la chemise grise de Sim et Topalov. Il est déguisé en dame, Sim.
C'est oui, bien sûr,
c'est
bien
très
sûr,
drôle.
Oui. C'est les bases.
C'est les bases. Mais c'est très amusant.
Très.
Je vous apprends que cette pochade fut disque d'or en 1979. Ça veut quand même dire 574 000 45 tours. À l'époque, il y avait 45 tours vendus.
C'est incroyable, peut-être plus que l'original, The Grease. Non, mais c'est pas impossible.
Est-ce qu'il y a un film, Yann Moix, parmi vos inavouables ?
Alors, j'aime beaucoup Les Soudoués, parce que c'est un film de Claude Zidi, mais dedans, il y a déjà Daniel Auteuil. et Michel Galabru. Et d'ailleurs, il y a même des apparitions de d'acteurs très connus qui sont devenus ensuite des stars du cinéma, mais qui sont là pour faire une panouille d'une journée. C'est très étrange, on en reconnaît droite à gauche. Oui. Richard Bohringer, notamment, surveille les épreuves du bac.
Et l'approviseur, c'est Maria Pacôme.
Et vous, monsieur Pourquier, comment envisagez-vous votre avenir?
Ça n'est pas pour mon avenir que je vois mon bac.
Allons, vous êtes de loin le plus jeune de nous tous, mais si. Par ailleurs, vos copies sont plus que satisfaisantes. Simplement, un détail, le Congo belge n'existe plus, et l'Afrique équatoriale française non plus, s'il vous plaît, silence. Et le tsar de toutes les Russies n'est pas Nicolas IV, mais Brejnev.
Oh, mais madame, je vous jure que c'est ce qui est écrit dans mon livre.
Il faudra vous en procurer de plus récent, monsieur Pourquier.
Oh, monsieur Pourquier, c'était Raymond Bussière.
Raymond Bussière, extraordinaire. Bubu, alias Bubu.
Alias Bubu, film que j'ai vu 10 fois, les Soudoués, Yann Moix, c'est une merveille.
Je l'ai vu beaucoup plus que 10 fois et j'ai même étudié image par image avec un ami. Il y a 30 ans.
D'accord.
Image par image, quand on avait les premiers magnétoscopes, on étudiait chaque plan pour savoir s'il y a des problèmes de raccord, etc. Et il y en a. D'un plan à l'autre, c'est pas les mêmes élèves qui sont dans la classe. C'est vrai, hein.
Mais je vous crois. Est-ce qu'il y a un classique qui vous tombe des mains?
En littérature?
Oui.
Il y a Les Bienveillants de Jonathan Little, qui est pour moi vraiment un nanar, un navet. Outre le fait que c'est illisible au niveau stylistique, je ne sais pas si quelqu'un a réussi à le lire en entier. C'est pas possible, en fait. On dirait une traduction de l'albanais. Enfin,
vous êtes dur.
Ah non, c'est illisible. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème de langue. Et puis le sujet est absurde. Et le coup de génie qui consiste à dire des gens cultivés étaient capables d'être nazis, c'est d'une telle bêtise, on le sait. Et ça me fait penser, vous savez, dans les années 70, il y avait toutes les semaines ou tous les mois, il y avait des numéros d'Historia, les médecins SS, l'enfer des SS, les camps SS. Et c'est vraiment un des livres les plus ratés, un des plus ratés des vrais faux chefs-d'œuvre des 30 dernières années. C'est vraiment rien du tout. Parce que moi, je me suis précipité pour le lire, hein, ça m'intéressait.
Comme hein. 700 000 acheteurs.
Mais c'est vraiment, il y a rien à l'intérieur. Un bon Placide Muse aux poches sur la plage fait office des bienveillantes.
Bien, et bien, c'est sur ces mots définitifs que nous rangeons les amuse-bouches pour passer à table. Terreur de Yann Moix est paru chez Grasset. La semaine prochaine, nous recevrons Sébastien Gendron pour Révolution, paru chez Albin Michel. L'amuse-bouche puise son courage en Marie-Annick Rimbaud, Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin et Kevin Pelot. Après nous, ce sera Zoé Varier pour D'ici d'ailleurs. Bonne semaine, n'oubliez pas que la peur n'empêche pas de penser. On vous embrasse, à samedi.
Au revoir.
Merci Clara Dupont-Mono, à la semaine prochaine. C'est D'ici d'ailleurs, comme elle vient de vous le dire, avec Zoé Varier, juste après les infos. Ce soir, elle reçoit Abdel Attaya, un écrivain marocain francophone.
Cette année, l'épidémie de grippe a démarré plus tôt que d'habitude. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des gestes simples peuvent être adoptés. Lorsque vous éternuez ou toussez, couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras ou un mouchoir à usage unique. Puis jetez votre mouchoir dans une poubelle fermée. Et n'oubliez pas de vous laver les mains avec du savon ou d'utiliser une solution hydroalcoolique. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Tous les dimanches à 14h sur France Inter,
l'humeur vagabonde,
Kathleen Evin.
De temps à autre, un scandale d'État ou des morts violentes font apparaître des liens entre mafia et république. À partir du 7 février sur Arte, une passionnante série documentaire de Christophe Bouquet en retrace l'histoire depuis les années 30. Il sera ce dimanche l'invité de l'humeur vagabonde.
Sur France Inter, à partir de 14h.
On se retrouve demain.
Et là, on est au restaurant, une soirée romantique, chouette, tu vois. Et là, il me sort que j'ai pris du poids. Non, mais tu le crois, ça? Tu trouves que j'ai pris du poids, toi?
Ah, bah tiens, on est arrivé. C'est quand même pas mal, non, de pouvoir se garer partout comme ça. Tu trouves pas?
Garez-vous plus vite. Smart4Too, à partir de 139€ par mois. Offre location longue durée, 48 mois, 40 000 km sans apport. Smart4Too pur, 45 kW, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz. Financement valable jusqu'au 31 mars 2017. Détails sur smart.com. Smart.
Bon début de soirée, vous écoutez France Inter, il est 20h. Les informations, Léo Téchard, bonsoir.
Bonsoir à tous. Le 15 de France a bataillé, le 15 de France a bien joué. On y a longtemps cru, mais à la fin, au rugby, c'est toujours les Anglais qui gagnent 19-16 à Twickenham, Jérôme Val.
Et les Français ne sont pas passés loin d'un exploit ici à Twickenham. Une petite défaite de 3 points face à cette équipe anglaise. Loin d'être impressionnante ce soir. Les Français qui ont longtemps été devant au tableau d'affichage, notamment en première mi-temps grâce à des pénalités de Camille Lopez. Et surtout à l'heure de jeu avec un avantage conséquent de 4 points suite à un essai de Rabah Slimani transformé par ce même Camille Lopez. Il restait quelques minutes à jouer quand les Anglais ont décidé d'accélérer sur une très très belle action conclue par Ben Théo. Ils ont inscrit eux aussi un essai qui a permis de sceller un petit peu le sort de ce match. Il y aura sans doute beaucoup de regrets pour ces Français qui étaient venus avec beaucoup d'intention, qui ont montré un visage très très séduisant ce soir. Mais à la fin, ils ont une nouvelle fois perdu, comme lors de la tournée d'automne face à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Les Français qui prennent quand même un point de bonus défensif. Les Anglais, eux, continuent leur incroyable série. 15 matchs sans défaite et surtout en route pour un nouveau grand chelem. À Londres, Jérôme Val, France Inter.
Et dans l'autre match qui ouvrait aujourd'hui le tournoi des Six Nations, l'Écosse s'est imposée 27 à 22 contre l'Irlande. En football, le patron, c'est Monaco, l'ASM qui y prend seul la tête de la Ligue 1 après sa victoire contre son rival et désormais dauphin 3-0 contre l'OGC Nice. 5 autres matchs viennent de commencer. Dijon, Paris, Montpellier, Bastia, Lille contre Lorient, Guingamp, Caen et Bordeaux contre Rennes. On l'apprend à l'instant, l'auteur de l'attaque à la machette contre des militaires.
Tous les dimanches sur France Inter, à partir de midi.
Question politique, c'est le rendez-vous politique de France Inter.
Nicolas Demorand.
Invité cette semaine, Henri Guénaud, député Les Républicains des Yvelines et candidat à l'élection présidentielle.
Oui, bonjour.
Interpellez les politiques.
Alors, très rapidement.
Intervenez.
Merci de prendre ma question.
Au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Question Pol.
Question politique, une émission en partenariat avec Le Monde et France Info, à écouter sur France Inter demain à partir de midi et à regarder sur France Info, canal 27 de la TNT.
Très bon début de soirée sur France Inter, place à Clara Dupont-Monod pour l'Amuse-Bouche. Elle reçoit ce soir Yann Moix qui fait paraître chez Grasset ses réflexions post-attentat.
Merci, les prochaines infos à 20h. Bonsoir les amis des livres et des apéros. Il paraît que la peur paralyse. La peur générée par la guerre ou par les attentats ferait disjoncter nos cerveaux et transformerait les citoyens éclairés en insectes tétanisés pris dans la lumière des phares. La peur empêche de penser, de parler, d'écrire. Bref, la peur fige la vie. Ah bon ? Oh non mais, en tout cas la bêtise, elle a pas peur de cette introduction. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est peureuse cette Dupont-Monod. Mais enfin, regardez du côté des livres, c'est exactement l'inverse. La grosse frayeur a donné des textes magnifiques. Henri Barbus par exemple, il a connu la terreur des tranchées et de cette terreur, il a tiré un roman, Le Feu, pris Goncourt en 1916. 85 ans plus tard, à l'autre bout du monde, des écrivains américains feront la même chose après le 11 septembre. Pour contrer la peur, justement en faire un objet d'étude, Don DeLillo signera une balade hallucinée avec L'Homme qui tombe et le dessinateur Art Spiegelman, tremblant que sa fille puisse être sous les décombres, se remettra de sa peur en traçant l'album à l'ombre des tours mortes. Loin de paralyser, la peur est peut-être le meilleur moteur de la pensée et si vous voulez une dernière preuve, elle est là, sous forme de livre. Il s'appelle Terreur, il est signé Yann Moix chez Grasset. C'est un livre qui ne raconte pas véritablement d'histoire. Il est découpé en petits paragraphes et chacun correspond à une réflexion sur ce qu'est l'acte terroriste, sur l'avant et l'après un attentat, sur les médias, sur nous tous. Pas de colère, pas de harangue, ni diatribe. Ces petits paragraphes sont calmes et décortiquent nos peurs depuis les attentats de janvier 2015. Ce petit essai est obsessionnel, très intelligent et surtout il interroge la radicalité, la jeunesse, le principe même de l'acte terroriste. Les terroristes. Nous sommes en guerre, avait dit François Hollande. Or, les écrivains ont toujours voulu dire la guerre. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Yann Moix. Et tant pis si ça paraît complètement déplacé. Après tout, il y avait bien un orchestre sur le pont du Titanic. Il nous livrera ses secrets d'écriture comme on murmure un antidote. Ce sera le procès-verbal. Nous révélera ses vices culturels indignes, sans crainte. Ce sera les inavouables. Avant qu'un libraire, sans peur et sans reproche, ne vienne enfin apaiser nos terreurs.
France Inter.
L'amuse-bouche, Clara Dupont-Monod.
Bonsoir Yann Moix.
Bonsoir.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette succession de petits paragraphes et pas un roman ?
D'abord, les romans, il y en a marre. J'en ai écrit beaucoup. Et parfois, la pensée s'exprime le mieux sous forme d'aphorismes et non pas de système. L'aphorisme, en tout cas les petits paragraphes, permettent de faire scintiller des petites étincelles de vérité qui ne prétendent pas proposer une grille de lecture ou un tout explicatif, mais qui permettent d'écorcher un peu le réel pour voir ce qui saigne en dessous. Et j'ai trouvé que ça se prêtait particulièrement bien aux attentats, parce que les attentats adviennent par à-coup et par surprise. Et les aphorismes adviennent par à-coup et par surprise.
Vous avez écrit la préface de ce livre Terreur dans la bibliothèque municipale. Et autour de vous, vous décrivez ce qu'il y a autour de vous, il y a du bruit. Et vous dites, il y a quelques années, j'aurais maudit ce brouhaha, il m'enchante aujourd'hui. Et donc vous avez écrit sur le terrorisme et sa destruction, précisément parce que vous étiez heureux de vivre.
On se rend compte par la négative que sans le savoir, nous sommes sans doute heureux de vivre. Et les attentats nous le rappellent. Le risque de mourir dans un attentat est faible. Mais ce qui fait peur, c'est l'irruption d'une nouvelle manière de mourir à laquelle nous ne sommes pas habitués. Mourir en avion, on est habitué. Mourir d'un cancer, on est habitué. Mourir à pied, on est habitué. Mais cette façon-là de mourir a fait irruption dans la société française. Et c'est cette nouveauté-là, ce côté inédit qui nous sidère en fait.
Il y a un autre côté inédit, c'est le côté adolescent des terroristes. Qu'est-ce que vous voulez dire par adolescent ?
J'entends par là que c'est rare que la guerre soit faite par des adolescents, ou décrétée, déclarée par des adolescents. Des adolescents qui, depuis leur chambre, de manière d'abord informelle, puis de manière virtuelle, puis de manière réelle, s'acheminent vers des tueries. Je crois aussi qu'il y a une sorte d'immaturité dans ce processus-là, ou de crétinisme. Il y a deux formes d'immaturité ou deux formes de crétinisme. Il y a ceux qui sont plutôt intelligents comme Mera et Kouachi, mais qui sont manipulés de manière pyramidale par Daesh, admettons. Et Daesh fait feu de tout bois et choisit des crétins en s'intéressant à l'intelligence de ces crétins et en leur donnant des pilules salafistes un peu frelatées. Mais ce sont des gens structurés et intelligents. Et puis il y a une deuxième forme de crétinisme, c'est le crétinisme de Koulibaly, qui là ne s'embarrasse même pas de corpus idéologique, et à toute vitesse, de manière accélérée, ingurgite 2-3 sourates, 2-3 juifs à détester, et on y va, on commet un carnage. Donc ce sont quand même tous des crétins, au sens strict du terme, qu'ils soient structurés intellectuellement, théologiquement ou pas du tout.
Vous pointez du doigt quand même l'inculture, l'espèce de vide qui habite les terroristes. Mais est-ce que pensez que les Kouachi, les Koulibaly, les Mera auraient été différents s'ils avaient lu ? Ils auraient été moins manipulables s'ils avaient lu ? Est-ce que ça, c'est pas un peu angélique ?
Non, alors d'abord, ils ont beaucoup lu, ils sont allés sur des sites internet, ils ont lu des sites ultra-salafistes, en tout cas, le salafisme, toutes les formes de salafisme ne sont pas dangereuses. Hein. Mais il y a des sites internet qui préconisent et qui prêchent la haine de notre civilisation et de notre société. Donc là, ils l'ont lu, par exemple. Et il est vrai qu'il y a quand même une sorte d'antisémitisme inculte qui, parallèlement, est en train de naître. Celui de l'assassin ou du terroriste qui ne sait pas où se situe Israël, qui ne sait pas ce que c'est qu'un juif, qui ne sait même pas ce que c'est un antisémite, finalement. Et effectivement, je pense quand même que les gens qui lisent des romans, des philosophes, etc., ont sans doute une propension moindre à commettre des carnages. C'est peut-être angélique, mais j'ai la faiblesse de le penser.
Vous parliez de l'absence d'idéologie. Écoutez l'argument d'un ancien membre du groupe armé Action Directe.
Il arrive un moment où, quand tu t'aperçois de ta propre misère, donc ce n'est pas la vie qu'on te propose, mais la survie, bon, tu ne fais plus confiance aux partis de type traditionnel, réformiste ou autre, et tu penses qu'il faut envisager d'autres types d'actions. À ce moment-là, tu fais un choix d'action, bon, un choix politique, et tu envisages des actions illégales, bon, qui sont autres, tu as des diffusions de tracts, bon, des prises de parole dans des meetings ou d'autres actions de ce type.
Ça veut dire la lutte armée.
Ça veut dire, entre autres, la lutte armée. Mais la lutte armée en soi n'est pas une finalité.
Est-ce qu'on peut dire que, contrairement à Action Directe, par exemple, les terroristes de Daesh ne sont pas animés d'une idéologie? Est-ce que c'est ça une des principales différences avec les groupes terroristes qu'on connaissait jusqu'à présent?
Alors, il y a une différence entre Action Directe et les terroristes d'aujourd'hui. C'est que Action Directe avait avalé un corpus idéologique d'extrême gauche, hein, marxiste, léniniste, enfin bon, et avait choisi de cibler des gens qui représentaient le système capitaliste. Georges Besse, par exemple, qui avait été assassiné en 1986. Donc il y avait quelque chose de strictement idéologique et de strictement politique, et c'est au nom de cette idéologie strictement politique qu'on agissait. Là, dans l'esprit des nouveaux djihadistes, il est clair qu'il y a une idéologie sous-jacente. L'islamisme radical, c'est une idéologie. Le salafisme poussé à son ultime incandescence, c'est une idéologie. Mais j'ai l'impression que le corpus de cette idéologie-là est moins structuré, moins intellectualisé, moins culturalisé que ne l'était celui des années 1970. Il y avait, dans les années 70, la prétention de détruire ce qui était existant. Là, j'ai l'impression que chez Daesh, c'est la destruction en elle-même, le héros, le personnage principal.
Donc c'est pas du nihilisme.
Non, alors le nihilisme qui me gêne, c'est que c'est un isme. C'est anéantir ce qui est existant, en fait. Mettre à bas la société, les codes, les règles. Là, on n'est pas dans l'apologie du rien. On est dans le rien tout court. Quand il y a un isme, ça veut dire qu'il y a une idéologie et en fait un passage par l'intellect, par la réflexion.
C'est pour ça que vous n'avez pas appelé votre livre terrorisme ?
Oui, alors parce que la terreur me semble une ambiance plus qu'une idéologie. Dans un attentat, on comprend que l'acte et la propagande sont mélangés, sont la même chose. L'attentat est lui-même sa propre propagande. Et donc c'est comme un teasing, un teaser. Un attentat est à la fois un carnage, un drame, une catastrophe, et en même temps, l'annonce de ce qui va advenir plus tard. Et ce qui advient plus tard, ce sont deux choses. C'est la sidération de tous, parce que l'attentat perdure, et la terreur, ce que j'appelle terreur, c'est l'ambiance créée par l'attentat. C'est cette ambiance-là, de silence, de mort et de panique. Et l'attente implicite, inconsciente, dans attentat finalement, même si c'est pas la même racine, il y a attente, du petit frère, du jumeau. Un attentat appelle un autre attentat, et on oublie toujours de penser la chose suivante, que les terroristes entre eux se tirent la bourre. Les terroristes font eux-mêmes un concours d'attentats, une compétition d'attentats, et c'est en cela aussi qu'il y a une immaturité. Il y a inflation d'imagination, inflation d'horreur, et d'ailleurs, quand Petit Jean décide de s'attaquer au Pyramel, il prévient tous ses amis, supposés, hein, ses amis virtuels sur Facebook ou autre, de ne pas rater la scène qui va arriver. C'est-à-dire qu'il y a un côté frime dans le terrorisme aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'Action Directe était dans le même état d'esprit. Il voulait frapper la société capitaliste pour la remplacer par une autre société. Et je crois que là, les terroristes actuels, et on en a les preuves dans le livre de David Thompson intitulé « Les revenants », veulent jouir à notre place de la société de consommation, tout comme nous. Et la première chose qu'ils font quand ils arrivent à Raqqa ou à Mossoul, c'est rencontrer des filles sur les réseaux sociaux de Daesh, choper de la meuf en fait, c'est ça qui les intéresse, avoir des belles voitures, écouter du rap et avoir des beaux appartements. Et ça nous devrait nous faire réfléchir. L'idéologie est en fait un prétexte pour commettre les carnages. Alors que chez Action Directe, le carnage était un prétexte pour instaurer l'idéologie.
Yann Moix, vous n'êtes pas seulement décortiqueur d'idéologie ou de peur, vous l'êtes aussi de Michael Jackson. Non mais cette phrase est bizarre, mais il me fallait une transition, je
oui,
vois votre tête. Non mais c'est un peu léger, je l'admets, mais il se trouve
encore
quand...
Thriller.
Thriller, mais surtout 2009 avec votre livre 50 ans dans la peau de Michael Jackson.
Oui.
Ah ben voilà, voilà pourquoi on a choisi Michael Jackson pour vous.
D'accord.
Sleep is I hear a voice shake my window, sweet seducing sighs, get me out into the night time, for walls won't hold me tonight. If
big eyes are everywhere. See that girl, she knows I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, tell them that it's human nature. Why, do they do it that way? If they say why, tell them that it's human nature.
Yann Moix est avec nous jusqu'à 20h pour son essai Terreur qui radiographie nos peurs activées avec les attentats de ces dernières années. Aux Invalides, François Hollande avait rendu hommage aux victimes des attentats. C'était le 27 novembre 2015.
La liberté ne demande pas à être vengée, mais à être servie. Je salue cette génération nouvelle. Elle a été frappée. Elle n'est pas effrayée. Elle est lucide et entreprenante, à l'image des innocents dont nous portons le deuil.
On a beaucoup, beaucoup salué la dignité de François Hollande au moment des attentats. Et vous, Yann Moix, vous dites, je vous cite, « La seule grandeur du président fut d'être en poste à ce moment-là. Quelle fierté spéciale tirée de cette horrible aubaine. »
Mais enfin, Clara, de quelle dignité vous me parlez? Vous imaginez un président qui ne serait pas digne à ce moment-là? Il n'a pas fait exprès. Je veux dire, quiconque ferait un discours ce jour-là serait digne. Je veux dire, qu'est-ce que François Hollande peut espérer en termes de grandeur pendant ces attentats? Outre le fait que le hasard a fait qu'ils ont été commis du temps qu'il était président, je ne vois pas en quoi il a été spécialement génial, incroyable, inouï, immense, héroïque, digne. Il a été normal. Là, pour le coup, c'était un président normal. Il a fait un discours écrit par d'autres, totalement désincarné quand on entend sa voix. C'est absurde, en fait. On voit bien que c'est complètement désincarné. Il n'est pas dedans. Il n'habite pas ce discours. Les mots sonnent faux. Donc franchement, et puis il y a autre chose, c'est que lorsque l'État assiste aux obsèques des morts, alors il est obligé de le faire bien sûr, il ne l'aurait pas fait, on serait dans un État irresponsable, oui. Mais il faut quand même remarquer une chose, ce sont les obsèques des victimes des attentats, et en même temps c'est la manifestation de l'impuissance de l'État qui n'a pas su empêcher ces morts.
Mais pourquoi ?
L'État se recueille devant sa propre impuissance. Vous attendez en tant que Français de l'État qu'il vous permette d'aller pouvoir boire un verre dans les rues de Paris sans recevoir une balle de Kalachnikov. C'est quand même le minimum de ce que vous attendez d'un État comme l'État français. Que l'État vienne ensuite commémorer, c'est tout à fait normal. Qu'il le fasse d'une manière aussi désincarnée, parce que le son de la voix de François Hollande ne trompe pas. Il n'y a pas vraiment d'émotion, je suis désolé. C'est pas incarné, on sent bien qu'il ne l'a pas écrit lui-même. Peut-être qu'il a remis deux, trois mots de sa poche, mais franchement, on sent bien qu'on est loin d'un discours comme le discours de Malraux, qui était sans doute décalé par rapport à l'époque, mais qui était totalement incarné, totalement vécu. Et je dis que François Hollande était en dessous de tout pendant cette période. Il a juste été là. C'est juste en même temps que nous qu'il était là, mais pas avec. Et d'ailleurs, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Après les attentats, il a avoué, dans le livre des deux journalistes du Monde, que la première chose à laquelle il a pensé, c'était ses enfants. Mais quand on est président de la République, la première chose à laquelle on pense, c'est tous les Français, qui sont tous nos enfants. Moi, président de la République, pendant ces 5 ans, tout le monde aura été président de la République, sauf François Hollande.
Vous regrettez autre chose, vous regrettez toutes les analyses qu'on entend après un attentat, ces cascades de mots. Vous écrivez, tout ce qu'on dit sur le terrorisme est plus intelligent que le terrorisme. Et en même temps, est-ce que c'est pas une tentative de mettre du sens là où justement il n'y en a pas?
Oui, c'est toute la fierté d'un pays comme le nôtre, qui est un pays intellectuel, et un pays d'intellectuels, un pays de littérature, de philosophie, de savoir, de connaissance et d'essayiste, que d'essayer de penser ce qui n'est pas immédiatement pensable.
Mais pour autant, vous récusez l'appellation spécialiste du terrorisme.
Oui, je pense que tout le monde est un spécialiste du terrorisme. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent dans leur chair les attentats, ou qui ont peur d'en voir se commettre d'autres, sont des spécialistes du terrorisme. Qu'est-ce que c'est qu'un spécialiste ? C'est quelqu'un qui connaît très bien un sujet. Quelqu'un qui se balade dans Paris, dans le 11e arrondissement, qui a assisté aux attentats ou qui a regardé sa télévision ce soir-là, est un spécialiste. Parce qu'il a vécu le sujet dans sa chair. Un spécialiste de Balzac, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a tellement lu Balzac que Balzac fait partie de lui-même. Un spécialiste des attentats, c'est quelqu'un qui a tellement vécu les attentats de manière directe ou indirecte, qu'il est concerné à l'infini, qu'il en est un spécialiste. Maintenant que Olivier Roy et Gilles Kepel se disputent pour savoir qui a raison, c'est très bien aussi, car ni l'un ni l'autre n'ont raison, ils ont tous les deux raison, et c'est le croisement de leurs pensées qui se réfutent l'une l'autre qui donne peut-être une ouverture sur la vérité. Je ne regrette pas qu'il y ait inflation de commentaires, en fait. Je dis qu'il y en a beaucoup, que c'est tant mieux, et que tant qu'on aura l'intelligence de penser ce qui n'est pas intelligent, on n'aura jamais un coup d'avance, mais on aura peut-être une intelligence d'avance. C'est toujours ça de prix.
Et le résultat, c'est que vous l'écrivez, vous dites « quelque chose a changé ». Quoi ? Tout. L'attentat s'infiltre sous les tapis, dans les oreilles. Le monde ambiant transporte une laideur nocive. Est-ce que ça signifie, Yann Wax, que les terroristes ont gagné ?
Oui, ils ont d'une certaine manière gagné, dans la mesure où le réel est cancérisé, tuméfié. Quand un attentat a lieu, c'est toute la réalité en fait qui est putréfiée et qui est contaminée. Vous voyez bien que les attentats agissent sur le moral, mais aussi sur la sexualité des gens, sur l'humeur des gens. Les choses ont l'air plus laides, n'ont pas la même texture, les oiseaux ne semblent pas chanter de la même manière. Il y a quelque chose qui modifie le réel, mais de manière microscopique, comme une irradiation. Comme après Hiroshima, une bombe a contaminé l'atmosphère et le réel en l'irradiant, là on a l'impression d'une irradiation psychologique, en fait. Tout est gangréné, tout est rongé, mais de manière mortifère, mais c'est par la psychologie. Chacun, en fait, voit de la mort où il y a de la vie. Chacun voit du danger où il n'y en a pas. Et tout résonne de manière différente de la veille de l'attentat.
Et donc les terroristes, quelque part, continuent de tuer après l'attentat lui-même.
C'est ce que je disais tout à l'heure, la propagande et l'acte se confondent, et c'est un acte qui se répand, qui se propage. C'est très étrange parce que c'est comme une publicité permanente pour la mort, en fait. On vit dans une publicité morbide, tout le temps. Tout nous annonce que la mort a gagné sur la vie. Et en cela, on peut dire que les terroristes gagnent en ce moment. Parce qu'à chaque fois qu'on oublie un peu un attentat, il y a un rappel de vaccin.
Et pourtant, quand on écoute Antoine Léris, alors le mari d'une victime du Bataclan, qui a écrit un livre « Vous n'aurez pas ma haine », quand vous entendez ça, Yann Wax ?
On passe par des chemins différents, mais on a tous cette même direction qui est recommencer à vivre et que notre vie ne tourne pas qu'autour de ces événements-là.
Est-ce que ça, c'est pas la plus grande déclaration de guerre à Daesh ? Est-ce que c'est pas une victoire aussi à sa façon ? Ou vous trouvez ça finalement naïf, peut-être ?
Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour Antoine Léris. Je l'ai reçu dans une émission, chez Laurent Ruquier, nous l'avons reçu. C'était un moment fort, le livre est un moment de lecture absolument bouleversant et je le respecte à l'infini. Néanmoins, je pense que dans la psychologie des victimes, il y a quelque chose qui se met en branle, qui est soit on tient ce genre de discours, soit on suicide. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit c'est une mort lente par l'alcool, la dépression, les drogues, ou une mort violente par le suicide, soit c'est le discours, on va dire, volontariste de celui qui veut vivre. Mais très honnêtement, quand Antoine Léris, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de force, nous parle de la vie, il a quand même les yeux qui sont pleins de mort. On ne peut pas lui dire, mais ça se voit, c'est un homme détruit qui parle. C'est un homme détruit qui nous dit qu'il faut vivre, mais on voit bien qu'il est détruit de l'intérieur, et il va se réparer. Et il a raison de dire que la vie est plus importante que la mort. Il a raison de dire que la vie va l'emporter sur le terrorisme, mais il n'empêche que l'amour de sa vie est mort, et que rien au monde ne pourra faire en sorte que sa femme ressuscite. Et donc, d'une certaine manière, dans la vie d'Antoine Léris, la mort a emporté une horrible victoire.
Et pour ceux qui sont moins touchés directement par le drame comme l'a été Antoine Léris, si on décrète la victoire finalement de Daesh et de la radicalité sanguinaire, ça voudrait dire donc qu'on se bagarre plus ? Ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus d'espoir ?
Je ne dis pas que nous n'avons aucune issue. Je ne dis pas qu'il faut être pessimiste. Je dis que il y a eu suffisamment de morts pour l'instant pour considérer qu'ils ont gagné. Même si ça s'arrête tout de suite, ils ont gagné. Ils ont gagné des morts. Ils nous ont empêchés d'être heureux pendant 2 ans. Donc, d'une certaine manière, ils ont gagné une guerre. Cette guerre-là, des morts déjà morts, a été gagnée. Et je ne peux pas dire, que la vie va l'emporter sur ce viva la muerte permanent, dans la mesure où je trouve que ce qui est advenu est suffisamment grave pour reconnaître que, de ce point de vue, ils ont gagné. Ça serait aberrant de dire non, ils n'ont pas gagné, on va continuer le combat. Les morts qui sont advenus sur le territoire sont la preuve définitive que Daesh a gagné cette guerre-là, quand bien même elle s'arrêterait dans 25 minutes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une guerre qui a été gagnée, une guerre par surprise à laquelle on n'était pas préparé, une guerre que nous n'avons pas faite, mais qu'ils ont fait. Et peut-être que nous serons les vainqueurs dans quelques années, ce que je souhaite et ce que je pense d'ailleurs. Parce que c'est cyclique le terrorisme, ça va s'arrêter puis ça reviendra. Mais cette guerre-là, je suis désolé, les cadavres et les cercueils montrent qu'ils ont gagné cette guerre.
L'objectif aveugle de destruction, il y a quand même des fois où ça se retourne un peu contre Daesh. Vous citez par exemple le moment de la destruction des vestiges de Palmyre, et vous dites que à mesure que Daesh détruisait ces monuments, en fait, il y avait une parole inédite qui se déployait, qui disait en fait ces vestiges, comme si la destruction des choses faisait paradoxalement jaillir les phrases et le langage sur ces choses.
Exactement, Clara. Je suis content que vous êtes la seule à m'avoir signalé ce passage, et ça me fait très plaisir parce que vous voyez qu'on peut dire ce que je dis, savoir ils ont gagné cette première manche, en tout cas de la guerre, ils l'ont gagné, et dire en même temps que l'optimisme peut continuer à être, parce que effectivement, au moment où Palmyre tombe, des monuments définitivement détruits, des vestiges de l'humanité enfouis à jamais, réduits à l'état de poussière, eh bien, l'optimisme préconise la recette suivante, qui est que cet art étant détruit, un autre art, comme la littérature, l'opéra, la musique, le cinéma, la chanson, vont peut-être un jour dire la destruction de Palmyre. Et donc, l'art va réparer la destruction de l'art. Je ne m'enchante pas, si vous l'aimez. Admettons qu'un chef-d'œuvre de littérature vienne un jour écrire sur la disparition de Palmyre. Le chef-d'œuvre que fut Palmyre sera, non pas remplacé, mais sera dit par un chef-d'œuvre de littérature qui n'aurait pas pu être si Palmyre n'avait pas existé. Voilà ce que j'essaye de dire pour essayer de colmater les brèches et me rassurer d'une certaine manière.
Et vous résumez en disant « Daesh fait jaillir autant de trésors de l'esprit humain qu'il en annihile ». Voilà. En parlant de trésors de l'esprit humain, Yann Moix, il est temps de nous livrer vos secrets d'écriture. C'est l'heure du procès-verbal. Votre nom.
Moix.
Votre prénom.
Yann.
Vous écrivez assis, couché ou debout?
En marchant.
Sur ordinateur ou sur papier? Alors, ça n'a pas de sens cette question.
Ni l'un ni l'autre. J'apprends par cœur des phrases que je recopie le soir pour pas oublier.
Vous avez un rituel avant de vous mettre à marcher ou écrire?
Aucun rituel. Jamais.
En période d'écriture, de marche, est-ce que vous avez tendance à beaucoup manger? Vos repas, ils sont gargantuesques ou au contraire, ils sont plutôt frugaux?
Frugaux. D'ailleurs, ça me fait penser, oui, dans François Truffaut, vous connaissez l'argent de poche.
Oui.
Cette phrase extraordinaire, il y a un gamin qui est invité par la mère d'un autre gamin, il dit « Madame, je vous remercie pour ce frugal repas ». S'il croit que frugal, ça veut dire gargantuesque.
Voilà, non, ça n'est pas votre cas. Donnez-moi un mot pour définir la seconde avant, juste avant de vous mettre à marcher et écrire.
Le silence total, je ne me dis pas, il y a rien, j'ai pas de mots. Je suis désolé de vous décevoir.
Pas du tout, au contraire, vous m'enchantez. Et donc vous cessez de marcher dès lors que vous avez mis le point final mental.
Il n'y a pas de point final parce que on commence pas un livre par le début, on termine pas un livre par la fin.
Un petit peu quand même.
Bah non, on l'écrit dans le désordre le plus total et ensuite on met de l'ordre à la fin.
Comment vous savez que c'est terminé? Alors,
on le sait pas, parce que mon éditeur me dit c'est pour le 24 que tu dois me le rendre, et j'y dis d'accord. Et donc le 24, ben je le rends. J'aurais pu continuer pendant 3 ans, j'aurais pu m'arrêter 3 mois plus tôt, mais voilà, il y a une date. C'est comme les dissertations à l'école, il y a une date de remise des copies.
Donc pour votre roman Naissance, qui faisait 1500 pages, votre éditeur a tardé à vous rappeler à l'ordre, visiblement.
Non, il m'avait dit tu me le rends le 3 janvier, et j'ai rendu le 3 janvier.
Merci Yann Moix, vous êtes libéré de
beaucoup.
Vos obsessions, je ne sais pas, mais en tout cas du procès verbal. Ça fait de vous un bâton, hein, comme John McEnroe, c'est le titre de la chanson de Da Silva. Non mais c'est mes transitions, ne me regardez pas comme ça Yann Moix.
De peur que tu me quittes, j'ai ouvert la porte en grand.
Je me suis préparé à te dire adieu, adieu. 100 fois je suis sorti embrasser des inconnus pour te perdre avant l'heure et te dire adieu, adieu. J'ai dressé des barricades, des forteresses imprenables. Lorsque l'amour s'écroule au fond du cours, bien avant que la douleur de ton départ ne me gagne, effrayant, effrayé, j'ai démoli ton amour. Avant que tu me détestes, je rongerai ma laisse avec allégresse pour te dire adieu, adieu. J'ai dressé des barricades, forteresses imprenables. Quand John McEnroe, je te prends de court. Lorsque l'amour s'écroule au fond du cours. Quand John McEnroe, je te prends de court. Lorsque l'amour s'écroule au fond du cours. Quand John McEnroe, je te prends de court. Lorsque l'amour s'écroule.
Vous écoutez la Musebouche jusqu'à 20h. Notre invité, c'est Yann Moix pour son livre Terreur, paru chez Grasset, consacré aux attentats de ces deux dernières années. Après les attentats de Charlie Hebdo, Yann Moix, un libraire me racontait qu'il n'avait jamais vu autant de monde dans sa boutique. Ça m'avait assez marqué, comme si la librairie était un peu un point de ralliement, ou comme si les livres offraient une espèce de contrepoids à la terreur, justement. Voilà pourquoi nous sommes quand même assez fiers d'avoir un libraire chaque samedi dans cette émission. Enfin, s'il appelle, parce que c'est pas sûr. Ah! Le voilà qui appelle. Allô ?
Allô, bonsoir, c'est Guillaume, j'appelle pour l'apéro.
Mais bonsoir Guillaume, ne seriez-vous pas Guillaume Chevalier, beau nom de famille ? Et ne viendriez-vous pas, homme preux, de la librairie mot à mot à Fontenay-sous-Bois ?
C'est tout à fait ça.
Eh bien, posez votre hallebarde sur Chevalier, parce que le côté chevalier, je vais filer la métaphore, et dites-nous quelle est la situation la plus farfelue que vous avez connue dans votre échoppe.
Dernièrement, lors des fêtes de Noël, il y avait sur ma table le dernier roman de Jonathan Coe qui s'intitule Numéro 11. Et un homme, quand je lui conseillais ce livre qui m'avait bien plu, m'a expliqué qu'il aurait préféré quand même lire les 10 premiers avant de lire le 11e.
Ah, mais ça, c'est, je trouve ça très logique. Ça.
Mais moi, j'aime beaucoup les librairies. C'est un endroit qui m'apaise, qui m'a toujours apaisé. Je me suis toujours senti bien dans les piscines et dans les librairies.
D'accord, sauf qu'on n'entre pas en maillot dans une librairie. Mais vous pourriez.
Oui, mais moi, je peux passer 4 heures dans une librairie.
Et dans une piscine aussi.
Non, 2 heures dans une piscine.
C'est parce que vous écrivez vos romans en nageant.
Oui, 2 heures de crawl, ça va.
Ah oui, c'est ça.
Et alors que 4 heures de lecture, c'est pas assez.
Messire libraire, donc c'est Guillaume Chevalier, quel livre conseilleriez-vous à notre invité Yann Moix ?
Je conseillerais bien volontiers Station Eleven de Emily St. John Mandel, qui est paru aux éditions Rivage.
Alors Yann, est-ce que vous connaissez ?
Non, mais je vais les regarder, je suis curieux.
C'est un roman d'anticipation dans un futur proche. L'humanité a quasiment disparu suite à une pandémie de grippe mondiale. Et l'action se situe à peu près 20 ans après cet effondrement de civilisation. Et on va suivre une petite troupe de théâtre itinérante qui passe de communauté de survivants en communauté de survivants pour leur jouer du Shakespeare et du Beethoven. Mmh. Et en fait, je pense que ça relie la thématique dont vous parlez aujourd'hui parce que c'est vraiment le fait que l'histoire se passe 20 ans après l'effondrement de civilisation fait que on est dans la reconstruction, dans l'amorce d'une reconstruction civilisationnelle. Et qu'en fait, il y a plein de choses qui se déroulent. Il y a une dualité entre les anciens qui ont connu le monde d'avant et qui en sont parfois et souvent même nostalgiques, et les plus jeunes qui se construisent, qui ne se souviennent pas, soit ils étaient trop jeunes et ils ne se souviennent pas de ce qui a pu se passer avant, soit ils sont carrément nés dans ce nouveau monde, et ils sont obligés de se construire une nouvelle mythologie, de nouveaux symboles pour structurer leur existence, garder l'espoir dans ce monde nouveau et justement combattre la peur.
Grâce à la culture, donc.
Et exactement, le message du livre, c'est ça. C'est que la culture, c'est un des piliers auxquels on peut s'accrocher pour ne pas sombrer et conserver notre humanité. Mmh. Et quand vous disiez tout à l'heure que les gens n'étaient jamais venus autant dans des librairies après les attentats, ça raccroche aussi au message de ce livre, je pense. Et donc voilà, on est dans...
Ben voilà pourquoi les librairies sont vitales.
Traumatique, mais collective, quoi.
Guillaume, vous nous redonnez les références du roman ?
Oui, bien sûr. Il s'agit de Station Eleven, de Emily St. John Mandel, et c'est aux éditions Rivage.
Merci Guillaume Chevalier de la librairie Mot à Mot à Fontenay-sous-Bois. Merci au magazine Page, la revue des libraires, pour la livraison hebdomadaire à la Muse-Bouche. Damoiseau Guillaume, parce qu'il fallait bien que je le dise, venez donc boire un verre de cervoise avec nous, gente dame que je suis, et le moine copiste Yann Moix. On vous attend, Guillaume, à tout de suite.
Eh bien, tout de suite, alors.
Yann Moix, c'est l'heure des inavouables. Oui, parce qu'on a beau être roi des lettres et de la télé, on n'en est pas moins homme. Donc, faillible. N'importe quoi. Y a-t-il une chanson, un livre ou un film, Yann Moix, catalogué un peu ringard, mais que vous affectionnez?
Oui, il y en a beaucoup.
Ah, une chanson, par exemple.
Bah, par exemple, en 1979, il y avait Sim et Topalov qui chantait « Où est ma chemise grise ?»
Oh, où est ma chemise grise, ça alors ? Où est ma chemise ? Où est ma
chemise grise ? Il y en a eu plein, alors je sais plus. Je sais pas ce que tu voulais que je dise.
Ah, mais rien du tout. C'est vous qui dites. Mais je vous rappelle quand même que j'ai du coup regardé la chemise grise de Sim et Topalov. Il est déguisé en dame, Sim. C'est
ouais,
assez,
bien sûr,
c'est
bien
très
sûr,
drôle.
Oui. C'est les bases.
C'est les bases. Mais c'est très amusant.
Très.
Je vous apprends que cette pochade fut disque d'or en 1979. Ça veut quand même dire 574 000 45 tours. À l'époque, il y avait 45 tours vendus.
C'est incroyable, peut-être plus que l'original, The Grease. Non, mais c'est pas impossible.
Est-ce qu'il y a un film, Yann Moix, parmi vos inavouables?
Alors, j'aime beaucoup Les Soudoués, parce que c'est un film de Claude Zidi, mais dedans, il y a déjà Daniel Auteuil et Michel Galabru. Et d'ailleurs, il y a même des apparitions d'acteurs très connus qui sont devenus ensuite des stars du cinéma, mais qui sont là pour faire une panouille d'une journée. C'est très étrange, on en reconnaît... droite à gauche. Oui. Richard Boringer, notamment, surveille les épreuves du bac.
Et l'improviseur, c'est Maria Pacôme.
Et vous, monsieur Pourquier, comment envisagez-vous votre avenir ?
Oh, ça n'est pas pour mon avenir que je vois mon bac.
Allons, vous êtes de loin le plus jeune de nous tous. Mais si. Par ailleurs, vos copies sont plus que satisfaisantes. Simplement, un détail, le Congo belge n'existe plus, et l'Afrique équatoriale française non plus. S'il vous plaît, silence. Et le tsar de toutes les Russies n'est pas Nicolas IV, mais Brejnev.
Oh, mais madame, je vous jure que c'est qui est écrit dans mon livre.
Il faudra vous en procurer de plus récent, monsieur Pourquier.
Oh, monsieur Pourquier, c'était Raymond Bussière.
Raymond Bussière, extraordinaire. Bubu, alias Bubu.
Alias Bubu. Film que j'ai vu 10 fois, les Soudoués, Yann Moix, c'est une merveille.
Je l'ai vu beaucoup plus que 10 fois et j'ai même étudié image par image avec un ami. Il y a 30 ans.
D'accord.
Image par image, quand on est les premiers magnétoscopes, on étudiait chaque plan pour savoir s'il y a des problèmes de raccord, etc. Et il y en a. D'un plan à l'autre, c'est pas les mêmes élèves qui sont dans la classe. C'est vrai, hein.
Mais je vous crois. Est-ce qu'il y a un classique qui vous tombe des mains?
En littérature?
Oui.
Il y a Les Bienveillants de Jonathan Little, qui est pour moi vraiment un nanar, un navet. Outre le fait que c'est illisible au niveau stylistique, je sais pas si quelqu'un a réussi à le lire en entier. C'est pas possible, en fait. On dirait une traduction de l'albanais. Enfin,
vous êtes dur.
Ah non, c'est illisible. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème de langue. Et puis le sujet est absurde. Et le coup de génie qui consiste à dire des gens cultivés étaient capables d'être nazis, c'est d'une telle bêtise, on le sait. Et ça me fait penser, vous savez, dans les années 70, il y avait toutes les semaines ou tous les mois, il y avait des numéros d'Historia, les médecins SS, l'enfer des SS, les camps SS. Et c'est vraiment un des livres les plus ratés, un des plus ratés des vrais faux chefs-d'œuvre des 30 dernières années. C'est vraiment rien du tout. Parce que moi, je me suis précipité pour le lire, hein, ça m'intéressait.
Comme 700 000 acheteurs.
Mais c'est vraiment, il y a rien à l'intérieur. Un bon Placide et museau poche sur la plage fait office des bienveillantes.
Bien, et bien c'est sur ces mots définitifs que nous rangeons les amuse-bouches pour passer à table. Terreur de Yann Moix est paru chez Grasset. La semaine prochaine, nous recevrons Sébastien Gendron pour Révolution, paru chez Albin Michel. L'amuse-bouche puise son courage en Marie-Annick Rimbaud, Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin et Kevin Pelot. Après nous, ce sera Zoé Varier pour D'ici d'ailleurs. Bonne semaine, n'oubliez pas que la peur n'empêche pas de penser. On vous embrasse, à samedi.
Au revoir.
Merci Clara Dupont-Mono, à la semaine prochaine. C'est D'ici d'ailleurs, comme elle vient de vous le dire, avec Zoé Varier, juste après les infos. Ce soir, elle reçoit Abdellah Taïa, un écrivain marocain francophone.